Bien, je vais peut-être me présenter moi-même. Voilà, je suis enseignante de littérature à l'université Paris 7 Denis Diderot. Et depuis une quinzaine d'années, je donne en effet un séminaire à la fois sur le témoignage et sur les écritures, je dirais la confrontation de la littérature à des événements extrêmes. Ce qui fait que j'ai pu travailler sur les écritures de la Shoah, mais aussi sur les écritures, par exemple, de la guerre d'Algérie, sur les textes les plus récents qui concernent le Rwanda. Et disons qu'en effet, j'ai préféré au thème de littérature et Shoah, qui suscite souvent des discussions, d'ailleurs parfois un peu prématurées, parce qu'au total on se rend compte qu'on est d'accord, le terme de écriture et Shoah. Et disons que c'est dans ce cadre-là que j'essayerai de couvrir, dans le temps qui m'est imparti, un certain nombre, je dirais, de situations d'écriture par rapport à la mémoire de la Shoah. Et je vais moi aussi vous demander, si vous le voulez bien, de m'avertir 5 minutes avant la fin de mon intervention pour que je puisse, disons, en vitesse préparer une conclusion. Alors voilà, je vais commencer par un texte, une citation d'Aaron Appelfeld, qui est un survivant, un témoin, un écrivain, et voici ce qu'il dit. Tenter de rendre compte des événements à travers l'individu et dans son langage, sauver la souffrance de la comptabilité des grands nombres et d'un atroce anonymat, restituer le nom et le prénom de la personne, rendre à la victime sa forme humaine qui lui avait été arrachée. Voici donc la tâche qu'il impartit à la littérature. Et mon intervention prend ainsi d'une certaine manière la forme d'un plaidoyer en faveur de la littérature comme mode de transmission de ce que fut la Shoah et de l'inconsolable douleur qui s'y attache. Alors je voudrais mettre ici de côté des productions dont il ne sera pas question. Celles qui utilisent le génocide, d'ailleurs les génocides, comme toile de fond, ou comme matériau, ou comme racoleuse mise en spectacle de la souffrance, et cette fonction de banalisation, d'édulcoration, de détournement, n'a rien à voir avec ce que nous appelons littérature, c'est-à-dire, au contraire, une démarche d'empathie, une interrogation obstinée, un douloureux effort pour traverser l'opacité d'une expérience et pour donner la parole à des individus broyés par l'histoire. Car la littérature, celle que nous respectons, nous rappelle inlassablement que les victimes ont été des personnes uniques, inconfondables. Elles redonnent le statut d'individu à ceux qui avaient été mis hors humanité et transformée en une masse indifférenciée, elle prétend les arracher un à un à cette masse, 6 millions de morts anonymes. Alors pourquoi ce plaidoyer? Parce qu'en ce qui concerne la transmission d'événements extrêmes, pas seulement la Shoah, la littérature a toujours été objet de suspicion. On s'est toujours demandé quelle était sa légitimité face à la souffrance extrême. Et je dirais que même face à des œuvres qui ne peuvent être soupçonnées d'aucune complaisance, il y a une méfiance qui concerne l'art lorsqu'il est confronté à l'horreur. La peur que l'œuvre ne donne une sens ou cohérence ou même une logique acceptable à ce qui devrait être transmis dans une forme d'opacité et de barbarie. Le « vous ne pourrez jamais comprendre » que répète avec désespoir le témoin est aussi une mise en garde contre toute fausse compréhension, contre toute fausse cohérence que pourrait induire le récit littéraire. Et Elie Wiesel, par exemple, donc c'est ce que je pourrais appeler un interdit de littérature, a à la fois été proféré par des témoins et par des théoriciens. Elie Wiesel, par exemple, écrit très vite concernant la Shoah, « Eh bien, au risque de vous choquer, je vous dirai que la littérature dite de l'Holocauste n'existe pas, ne peut pas exister. Avec le recul d'une génération, on peut le dire, on peut l'affirmer déjà. Auschwitz nie toute littérature, comme il nie tous les systèmes, les doctrines. L'enfermer dans une philosophie, c'est le restreindre, le remplacer par des mots, n'importe lesquels, c'est le dénaturer. » Alors, sur l'impossibilité d'une telle littérature, je dirais que les affirmations théoriques n'ont pas cessé de se succéder. Je n'en citerai que quelques-unes. Par exemple, je pourrais citer Bertolt Brecht. Les événements d'Auschwitz, du ghetto de Varsovie, de Buchenwald, ne supporteraient certainement pas une description d'ordre littéraire. La littérature n'y était pas préparée et ne s'est pas donné les moyens d'en rendre compte. Pour Roland Barthes, de façon plus générale, je le cite, « La littérature ne peut rendre compte des objets, des spectacles, des événements qui la surprendraient au point de la stupéfier. » Pour George Steiner, je le cite, « Il n'est pas évident qu'il puisse ou qu'il doive y avoir une forme de style, un code d'expression intelligible qui convienne d'une façon ou d'une autre au fait de la Shoah. » Enfin, on connaît la fameuse formule d'Adorno qui a engagé dans notre culture, je dirais, un circuit si long et si difficile à démonter, la poésie, dit-il, écrire de la poésie après Auschwitz est barbare, poésie étant ici à comprendre au sens de recherche et d'exigence formelle. Car, et je crois que là, c'est commun à tous les arts, il faudrait sans doute se confronter à cette idée qui est ancrée chez beaucoup, c'est-à-dire que plus il y a un travail d'écriture, moins il y aurait de vérité. Et une expérience assez facile à faire est de prendre une partie des témoignages qui sont publiés et de regarder la quatrième de couverture. Et vous avez en quatrième de couverture presque systématiquement, voici un témoignage brut, voici un témoignage véridique, on est loin de la littérature. Or, et je crois que de plus en plus nous le savons, il faut un travail d'écriture pour convaincre, pour interpeller, pour donner sens. Il ne suffit pas d'entasser des faits. Il faut écrire, il faut une immense exigence, pour se présenter face à un lecteur, et j'y reviendrai, pour vaincre à la fois nos défenses et une forme d'indifférence. Mais ce qu'il faut, au contraire, c'est écrire autrement. C'est refuser des sortes de recettes qui seraient systématiquement appliquées. Les témoins, les créateurs, confrontés à cet événement, ont su très vite parfois. Je pense à Anthelme parlant du monde concentrationnaire. Je pense à Semprun dans L'écriture ou la vie. Certains ont compris très vite que seul le travail de l'écriture permettrait d'approcher quelque chose de l'ordre de la vérité. D'autres l'ont compris plus lentement. Je pense que Elie Wiesel a mis du temps à revenir en partie sur la phrase que je vous ai lue. Primo Levi, qui au départ affirme ne pas faire de littérature, et je crois qu'il faut dire très vite en passant que si l'œuvre de Primo Levi est une des grandes œuvres de témoignage du XXe siècle, c'est aussi une des grandes œuvres littéraires du XXe siècle. Et Primo Levi sait parfaitement, par exemple lorsqu'il publie un livre qui s'appelle « La recherche de Racine », avec toutes ses lectures, il sait parfaitement, d'une certaine manière, à quelles ressources de la culture il a pu avoir recours pour essayer de faire comprendre ce qui, justement, n'était pas partageable. Lorsque Primo Levi parle de son style, lorsqu'il dit qu'il a voulu un style mineur, lorsqu'il dit qu'il ne voulait pas avoir le style d'un avocat ou d'un procureur, il est parfaitement conscient finalement, de ses choix d'écriture. Lorsque Primo Levi rédige « Si c'est un homme », ce n'est pas un entassement de faits et ce n'est pas non plus une sorte de récit qui se déroulerait dans la chronologie, c'est un choix. Il y a les épisodes les plus à même de faire comprendre au lecteur ce que c'est que la vie dans le camp, par exemple. Donc, il faut refuser une duplication paresseuse des modèles reconnus, des procédés narratifs. Et je voudrais ici, par exemple, rappeler que l'un des scandales suscité par un feuilleton comme Holocauste, ce feuilleton américain qui a suscité en France énormément de discussions, ne venait pas du tout du thème ou des personnages, mais de la forme de série qui avait été utilisée tout à fait pour d'autres thèmes. Et que, à contrario, si le film Shoah est une grande œuvre du XXe siècle, c'est parce que Lanzmann s'est confronté au problème de la forme. Et je voudrais insister sur ce point, se confronter quand il s'agit de la Shoah, que ce soit par l'écriture ou que ce soit, par l'écriture cinématographique, c'est une confrontation qui est à la fois d'ordre éthique et esthétique. Et dans ce cas-là, la dimension éthique et esthétique sont inséparables. Je pourrais citer quelqu'un comme André Schwarzbart avec « Le dernier des justes ». Lorsque André Schwarzbart écrit « Le dernier des justes », comme une partie de ceux qui se confrontent au désastre, il sait qu'aucune forme d'écriture ne va le satisfaire. Mais au lieu d'abdiquer et d'adopter cette expression un peu facile et un peu paresseuse d'indicible, ce que fait Schwarzbart, c'est que sous les yeux du lecteur, il va faire appel à toutes les formes d'écriture pour les rejeter les unes après les autres. C'est-à-dire qu'il y aura la forme de la chronique, il y aura la forme réaliste, il y aura l'écriture onirique, il y aura l'écriture personnelle, chacune des formes étant testée dans un chapitre, rejetée, reniée, l'effort revenant au chapitre suivant, et nous avons chez Schwarzbart, comme chez Ravitch, une confrontation de l'écrivain ou du témoin à l'écriture, une confrontation dans un combat dont on sait qu'on s'est perdu d'avance, c'est-à-dire que jamais personne ne pourra rendre compte de l'ampleur et de la violence du désastre, mais cette confrontation, elle est sans cesse tentée. Elle pousse la littérature dans ses limites et, par exemple, on pourrait penser à d'autres désastres qui ont donné lieu aux mêmes tentatives et, je dirais, à la même intransigeance au niveau de l'écriture. Je pense par exemple au Goulag. Si l'on relit les textes de Chalamov, on s'aperçoit que c'est exactement la même tentative, refuser l'écriture littéraire pour autant qu'on la considérerait comme une écriture à dimension purement esthétique ou purement réaliste, et tester tous les modes d'écriture qui vont permettre aux témoins ou à ceux de la génération suivante d'essayer de rendre compte, c'est-à-dire dans ces écritures, énormément de modestie et énormément de détermination. Alors dans le temps qui m'est imparti, je voudrais aborder une mission presque impossible, c'est-à-dire essayer de suivre ces écritures sur la Shoah sur 4 générations. Puisque l'un des paradoxes de ces écritures sur la Shoah, c'est que se confrontent à la fois l'impossibilité de dire et le besoin impérieux de raconter. S'y confrontent une sorte d'interdit de littérature et, je dirais, une pulsion d'écriture qui court de génération en génération. Ce parcours permettrait déjà de délimiter, je dirais, 4 situations d'écriture. La première, celle sur laquelle sans doute j'aurai le plus l'occasion de m'attarder, est celle des témoin rescapé. Donc, situation de témoin rescapé, mais ayant choisi pour leur témoignage une dimension d'exigence littéraire. Je pense à Kertész, prix Nobel de littérature, je pense à Elie Wiesel, je pense bien sûr à Primo Levi. On pourrait continuer la liste, mais je crois que là, on a une première situation d'écriture avec des enjeux très particuliers. Une seconde situation d'écriture serait celle de ceux que j'appellerais les orphelins de la Shoah, c'est-à-dire ceux qui, à la génération suivante, sont confrontés à un malheur intime, un malheur qui va frapper leur existence, leur enfance et leur vie d'adulte, mais ce malheur est un malheur inscrit dans l'histoire, et la confrontation de ces orphelins de la Shoah à l'histoire va être en quelque sorte le nœud de leur écriture. Alors, je pourrais citer des écrivains que vous connaissez. Bien sûr, j'espère avoir le temps de m'attarder sur Georges Perec, qui nous présente là un texte presque canonique, sur André Schwarzbart, sur Elisabeth Gill. Mais ce qui est intéressant à ce niveau d'écriture, c'est qu'on y trouve mêlés de grands écrivains et de grands historiens. Puisque l'une des caractéristiques de, je dirais, cette situation d'écriture sur la Shoah, c'est qu'il faut, pour ces enfants orphelins devenus adultes, essayer d'élucider à la fois ce qui n'a pas été transmis, puisque lorsqu'il y a génocide, il y a rupture de transmission, il y a rupture des liens générationnels, il y a rupture généalogique, mais il leur faut aussi élucider l'histoire avec un grand H, l'histoire avec sa grande H, comme dit Perec, pour essayer de faire le lien entre une histoire individuelle désastrée et la grande histoire. Et ce n'est pas un hasard si vous avez là de très grands historiens. Nos grands historiens français de la Shoah sont des orphelins de la Shoah. Serge Klarsfeld, et vous le savez, c'est à partir de la tentative de retrouver le wagon dans lequel son père a été déporté que Serge Klarsfeld démarre cette recherche qui en fait un des grands historiens de la déportation en France. Pierre Vidal-Naquet, dont les deux parents ont été déportés. Personnellement, je connaissais Pierre Vidal-Naquet comme un des grands historiens de la Grèce ancienne. Et j'ai eu l'honneur qu'il soit dans mon jury de thèse et qu'il soit devenu un ami. Et Pierre Vidal-Naquet me disait qu'il sait qu'une des grandes motivations qu'il a découvert au fur et à mesure de ce métier d'historien, savoir, donc un savoir, il a très vite travaillé sur la Grèce antique, puis vous le savez, il a travaillé beaucoup sur la guerre d'Algérie, et il me disait que le fait de savoir que son père avait été arrêté et torturé n'est certainement pas étranger. Tout le travail que Vidal-Naquet a fait sur la torture et la République, enfin, vous le savez aussi, c'est un de ceux qui a lutté contre le négationnisme, parce que, disait-il, et c'est le titre de son livre, Les assassins de la mémoire, que les négationnistes tuaient les victimes une seconde fois. Enfin, quelqu'un comme Sol Friedlander, je pourrais continuer cette liste, mais il me semble très intéressant de voir qu'à un certain niveau, vous avez ceux qui vont se confronter à cette histoire avec les armes de l'historien, les archives, et ceux qui vont s'y confronter avec les armes de l'écriture. Troisième génération, ce sont ceux qui sont nés dans des familles anéanties. Ce sont ceux qu'on appelle maintenant la génération d'après. Et ceux de la génération d'après, je n'en citerai que quelques-uns. Philippe Grimbert, dont vous avez peut-être lu Un secret et dont vous avez pu voir l'adaptation au cinéma. Peut-être avez-vous vu ou lu le livre d'Henri Raksimov, Un cri sans voix. Enfin, il y a tout. Myriam Anisimov, qui, elle, s'est consacrée beaucoup à des biographies de Primo Levi. Et donc, il y a une quatrième génération. Alors, nous pourrions continuer, sans vouloir forcer la note. Je crois que l'imaginaire notre imaginaire littéraire, l'imaginaire littéraire de ce 21e siècle, de la fin du 20e et de ce 21e siècle, est un imaginaire en quelque sorte infusé, nourri par l'histoire, infusé, nourri par cette histoire. Vous n'avez qu'à regarder les récentes polémiques ou les récents succès, que ce soit Les Disparus de Daniel Mendelsohn, que ce soit le livre de Haenel et toute la polémique qu'il a pu... Donc je crois que de génération en génération, nous avons, je crois, cet imaginaire au travail. À ceci près que pour les trois générations, celle des témoins, celle des orphelins de la Shoah et ceux de la génération d'après, je crois que les enjeux de l'écriture, ce sont des enjeux de vie et de mort. J'aurai l'occasion d'y revenir. Je crois que des témoins ont pu mourir de ne pas avoir pu raconter leur histoire, de ne pas avoir été entendus. Mais de plus en plus, on soupçonne que des témoins ont pu mourir, peut-être, de l'avoir dit en allant, en brûlant toutes les précautions qu'ils auraient pu prendre au niveau de l'écriture. Vous le savez, la question, par exemple, du suicide des témoins, suicide de Primo Levi, suicide de Jean Améry, suicide de Piotr Ravitch, suicide de Bruno Bettelheim, et l'on pourrait continuer, nous pose une question brûlante. On ne peut jamais donner une explication univoque à un suicide. Il y a infiniment de raisons personnelles, intimes, que nous n'avons pas à toucher, mais nous ne pouvons pas contourner cette question. Qu'en est-il ? Le témoignage aurait-il cette dimension thérapique, de thérapie que nous lui prêtons ou non ? Enfin, dernier point général, je crois que de traverser toutes ces générations nous permet de comprendre quelles sont les intermittences de la mémoire. Par exemple, en France, il y a un travail de la mémoire qui est absolument passionnant, puisque vous le savez, les premiers témoignages ne sont pas entendus, puis les témoins sont entendus dans le temps où se pose la question de ce qui s'est passé en France pendant l'occupation. Avec un livre comme un film comme Le Chagrin et la Pitié, il va y avoir une sorte de basculement de la mémoire. Et vous trouvez à ce moment-là, dans les écritures, que ce soit chez Modiano, que ce soit chez Gary, redécouvert des livres d'Irène Némirovski, une interrogation taraudante sur ce qui s'est passé en France pendant l'occupation. Et la littérature est porteuse de cette interrogation. Et nous arrivons à un autre temps de la mémoire, vous le savez aussi, nous sommes arrivés au temps de la célébration des justes, c'est-à-dire à une sorte de rééquilibrage de la mémoire. Alors je voudrais, dans les 5 minutes qui me restent, peut-être évoquer simplement quelques-uns des écrivains qui ont parlé, qui ont porté cette mémoire de la Shoah en France. Ce sont des écrivains qui écrivent à la fin des années 50, parce qu'il leur a fallu des années et des années pour arriver à rendre compte de leur expérience. Et leur témoignage va provoquer une sorte de stupeur et de sidération. Il s'agit, en 1959, de La Nuit, de Elie Wiesel, rapidement suivi par L'Aube et Le Jour. Et La Nuit d'Elie Wiesel est un exemple, mais presque criant, du fait que Wiesel ne s'est pas rendu compte, quand il disait qu'on ne peut pas faire de la littérature avec la Shoah, que lui en a fait. C'est-à-dire que le livre de Wiesel est un livre d'une puissance, c'est un tout petit livre qui fait 150 pages, d'une puissance inouïe dans sa concision, dans sa cruauté et dans sa retenue. Et le livre de Wiesel est d'abord écrit en yiddish, c'est un gros livre, puis Wiesel fait la connaissance de François Mauriac, qu'il pousse à écrire en français, et l'écriture de Wiesel est d'une certaine manière à ce moment-là influencée, je dirais, par une concision comme celle de Mauriac. Le livre fait 150 pages, et s'il n'y avait qu'un seul livre à lire sur ce thème-là, ce serait La Nuit de Wiesel. En même temps, vous avez d'autres livres, Le sel et le soufre d'Anna Langfous, Les bagages de sable d'Anna Langfous, qui obtient le prix Goncourt dans les mêmes années 59. Le dernier des justes d'André Schwarzbart, dans les mêmes années, un peu avant, Si c'est un homme de Primo Levi. Nous allons donc fonctionner par des sortes de vagues mémorielles qui se traduisent par des vagues d'écriture. Et pour les écrivains français, ce que je voudrais dire, et même si je n'ai le temps de dire que cela, c'est que ces écrivains, ce sont ces écrivains qui vont faire comprendre la différence entre une expérience concentrationnaire et une expérience génocidaire. Parce que ces écrivains-là vont faire état de ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire la destruction absolue de leur famille, hommes, femmes, enfants, vieillards confondus, la destruction de leur monde, la destruction de leur village, la destruction de leur culture, la destruction de leur langue, le yiddish. Et ils vont faire comprendre, en tout cas au public français, ce qu'est le sens d'un génocide. Et le sens d'un génocide, que ce soit au Rwanda, ou que ce soit en Arménie, ou que ce soit en Europe nazie, c'est cette expression folle jusqu'au dernier. Et il faut bien comprendre que cette expression jusqu'au dernier non seulement implique les témoins eux-mêmes, mais si on ne comprend pas cette résonance, on ne comprend pas la persistance de l'écriture et la persistance du traumatisme de génération en génération. C'est-à-dire que les héritiers de ce groupe se sentent, plusieurs générations après, concernés par cette condamnation. Ils se considèrent comme ayant été concernés par la condamnation, comme vivant en quelque sorte par mégarde, par sursis. Et ce que la littérature ne dit pas, eh bien, est dit sur les divans des psychanalystes. Je terminerai par, je dirais, une approche plus linguistique. La Shoah en France, qui ne s'appelait pas Shoah à l'époque, a essentiellement été perçue à travers ces témoignages de témoins venus d'Europe centrale et qui ont choisi la langue française comme langue de témoignage et de transmission. Par exemple, Wiesel venant du yiddish vers le français, Anna Langfous venant du polonais et écrivant directement en français, Ravitch venant de l'ukrainien vers le français, Anna Novak un peu plus tard, Manès Perber écrit en allemand mais se traduit lui-même. Et alors je terminerai par cette question, pourquoi ? Je crois, peut-être, parce qu'ils ne pouvaient pas énoncer un récit de mort et de destruction dans leur langue maternelle. Deuxième hypothèse, peut-être, parce que le passage d'une langue à une autre permettait seul d'avoir le recul nécessaire pour raconter sans suffoquer. Je vous rappelle ces paroles d'Anthelme. À peine commencions-nous à raconter que nous suffoquions. Comment prendre de la distance ? Et vous voyez bien que c'est aussi, la perception qu'a Lanzmann, qui demande aux témoins de jouer leur propre rôle pour leur permettre d'établir cette distance nécessaire. Enfin aussi, et peut-être surtout, parce que appartenant à une culture assassinée, sans renaissance possible, ils ont choisi de confier cette mémoire à la culture de leur pays d'adoption. Et je crois que nous pouvons dire que c'est un pari gagné, puisqu'en France s'est conservée vivante une mémoire de la Shoah, avec ses intermittences, ses célébrations, ses polémiques, ses recentrages, mais une mémoire vivante, de plus en plus partagée par l'ensemble de la nation, et le séminaire que nous avons aujourd'hui ensemble en est la preuve évidente, alors qu'ailleurs, sur le théâtre même, je dirais, du désastre, la Pologne ou ailleurs, il n'y a eu pendant longtemps que des traces désaffectées. Je vous remercie.